chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Bonsoir. Vous écoutez Chronique Mutante pour la dernière fois en direct de Mast Monica. Oui, nous allons retourner dans les studios de Radio Panique.
Oh oui. On est contente. Oui.
Très contente, mais la dernière fois, on prend sûrement un studio volant par ici.
La dernière fois du grand marathon du studio volant.
Ouais. Oui.
Oh là là, et ça fait depuis combien de temps?
On rentre à la maison.
Ça doit faire 3 mois peut-être.
Oui, ça fait depuis fin mars.
Ouais. Ouais, c'était super, quelle expérience de studio volant. Merci de nous avoir techniqué tous les samedis pendant 3 mois.
Oui, merci.
Avec grand plaisir. Merci, j'en ai très marre.
Voilà. On t'entend pas.
Pourtant, on a testé les micros, vas-y.
Oui,
voilà, ça y est.
Bonsoir.
Elle t'avait coupé la chic.
Non, je ne t'avais pas coupé la chic. Il y avait un faux contact.
Alors, qu'est-ce qu'on va se raconter ce soir?
Eh bien, on commence par une revue de presse, si j'ai bien compris.
Oui.
On parlera petit agenda, puis des chroniques par-ci par-là, série. Quoi d'autre?
Musique.
Et des surprises, quoi.
Manifestation.
Un gros programme aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre sur la chat de Radio Panique en cliquant sur chat dans la colonne de gauche du site radiopanique.org.
Il y a même un slam.
Ouais, la chat est ouverte.
Oui, et puis oui, des lectures, un slam, et puis aussi des nouvelles terribles de ce monde qui part à volo.
Tout à fait. On écoute une chanson, on se retrouve avec la revue de presse.
Oui.
On écoute Tôle froide avec Police Nationale.
À plus.
C'est l'heure de la revue de presse.
Anna, la revue de presse. Queer.
Alors, Grindr va retirer le filtre de l'ethnicité dans la prochaine version de son application de rencontre homosexuelle par solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Un changement dans les critères de repérage de partenaires potentiels que de nombreux critiques appelaient de leur vœu depuis longtemps. Donc si vous voulez avoir une idée de l'étendue du racisme sur Grindr, vous pouvez aller jeter un coup d'œil au compte Instagram qui s'appelle Personnes racisées versus Grindr, qui est très éloquent. Et donc c'est pas sûr que en faisant ça, le racisme va disparaître de Grindr, mais en tout cas, il va pas l'encourager théoriquement. Alors, en Belgique, une statue de Léopold II a été dégradée.
Attends, il y a un faux contact avec ton câble en fait. Tu peux prendre un autre micro comme ça on...
Ah ben, c'est pas des conditions de travail. Une statue de Léopold II a été dégradée dans le jardin du musée de l'Afrique à Tervuren, rapporte jeudi soir la VRT. D'autres statues de l'ancien roi ont également déjà été vandalisées à Halle, Ostende et Ekeren. Léopold II est connu pour son règne de terreur au Congo au XIXe siècle, alors que ce territoire lui appartenait personnellement. Mardi, une pétition a été lancée pour demander le retrait de toutes les statues de l'ancien roi des Belges du territoire de la ville de Bruxelles. Elle a déjà été signée plus de 3500 fois. Dès ce samedi 6 juin, la vapeur est de retour dans les saunas et spas suisses. Le même jour, dans la foulée de la reprise des services érotiques à travers le pays. Ce sera aussi le cas dans les étuves vouées aux rencontres sexuelles. Les amateurs gays, bi ou hétéros retrouveront ainsi leur backroom, labyrinthe et gloriole favoris après 12 longues semaines d'abstinence. Théorique. Outre les mesures désormais habituelles, employés protégés, limitation du nombre de clients, jet hydroalcoolique à disposition, etc., les établissements seront tenus de demander aux clients de laisser leurs coordonnées à l'accueil. Celles-ci seront chaque jour mises sous scellés, avec pour but de permettre d'alerter discrètement les clients ayant fréquenté l'établissement au même moment qu'une personne testée positive au coronavirus dans les jours qui suivent. Condition supplémentaire, la distance sociale de 2 mètres s'appliquera. Ou 1m50, mais quoi qu'il arrive, dans un lieu de cruising, ça semble un petit peu étrange. Ou à défaut, la réduction de la présence à 15 minutes par autocontrôle. Donc il faut éjaculer très très vite. La députée La République En Marche, Laurence von Kenbrook, a déposé ce mercredi une proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion en progression sur le sol français. Elle veut introduire une infraction spécifique dans le code pénal. L'association Le Refuge avait d'ailleurs indiqué pendant une mission d'information menée à l'Assemblée nationale recevoir chaque mois une dizaine d'appels de jeunes concernant des thérapies de conversion, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Le texte de la proposition de loi comporte 8 articles et le premier vise à créer une infraction spécifique dans le code pénal réprimant les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Les peines prévues sont de 2 à 3 ans de prison et de 30 000 à 45 000 euros d'amende. Alors, pour dénoncer les persécutions dont est victime la communauté LGBT+, en Tunisie, l'association Shams a décidé de porter plainte contre le chef du gouvernement auprès de la Cour pénale internationale. Cette association, créée en 2015, au lendemain de la révolution de Jasmin, lutte pour la défense des droits LGBT en Tunisie. Dans ce pays, l'article 230 du Code pénal, hérité de l'époque de la colonisation française, condamne l'homosexualité féminine ou masculine jusqu'à 3 ans de prison. Vendredi 29 mai, l'association a annoncé son intention de déposer plainte contre Elias Farfar, chef du gouvernement tunisien, pour crime contre l'humanité. L'association rappelle que selon les statistiques de plusieurs ONG, la persécution de la communauté LGBT devient de plus en plus systématique. Des cours de justice qualifient ainsi le fait pour un homme de porter des vêtements féminins en public d'atteinte à la pudeur publique. D'autres pénalisent la victime plutôt que l'agresseur dans des affaires d'homophobie. En outre, la pratique du test anal forcé est encore courante parmi les forces de l'ordre pour vérifier l'homosexualité des personnes interpellées. L'actuel président s'était pourtant engagé pendant sa campagne à mettre un terme à ces pratiques. Le gouvernement a essayé plusieurs fois de s'en prendre à l'association jusqu'à lancer une procédure en justice pour la faire dissoudre. À Des Moines, dans l'Iowa, des employés d'un bar gay ont fait l'objet d'une arrestation musclée, lundi soir devant l'établissement. Un pick-up banalisé, comptant plusieurs officiers en tenue anti-émeute, a débarqué dans la rue. Ils sont descendus, leurs armes pointées sur nous, et ont mis trois d'entre nous au sol. Le personnel du bar était apparemment coupable d'avoir offert de l'eau, du lait, de magnésie contre les brûlures dues au gaz lacrymogène et des premiers secours à des personnes revenant des affrontements qui se déroulaient non loin de là pendant les manifestations du mouvement Black Lives Matter. La municipalité avait d'ailleurs conseillé aux commerçants de se rendre dans leur établissement pour prévenir les actes de vandalisme. Le week-end dernier, le Rubis Deluxe, bar queer en Caroline du Nord, avait vécu une mésaventure similaire. Afin de faire déguerpir le personnel qui portait secours à des protestataires, les policiers avaient tiré à deux reprises en direction de l'établissement sans faire de victimes. Mardi à New York, c'est une petite manifestation pacifique dans le célèbre Stonewall Inn, lieu emblématique des luttes intersectionnelles pour les droits des LGBTQ et des Afro-Américains, qui avait été visé par des policiers.
Et en fait, je sais pas si tu l'as dit parce que je suis arrivée en cours de route, mais les charges contre le meurtrier de George Floyd sont passées de homicide involontaire à homicide volontaire.
Oui.
Quand même. Et j'ai vu une image, j'ai pas vérifié si elle était vraie, mais je crois qu'elle est vraie. Vous savez, à Los Angeles, il y a ces plateaux d'étoiles au sol, là, ces petits trottoirs d'étoiles avec les noms des restas. Et Donald Trump, vu qu'avant d'être premier acteur des États-Unis, il était un acteur de télé assez mauvais, il avait une étoile. Et son étoile a été défoncée. Il n'y a plus son nom, il y a un gros trou.
Assez emblématique de la profondeur de sa politique. Tout à fait.
On va. Excuse-moi.
Oui, sorry. Du coup, il y a un événement qui se passe.
Demain.
Demain. Oui. Plus ou moins en lien avec cette dernière news.
Oui, tu veux nous en parler.
Eh bien, il y a un rassemblement statique, puisque maintenant on ne peut plus se mouvoir, on ne doit plus se mouvoir obligatoirement, mais on doit être statique. Place Poulart à 15h, contre le racisme, les violences policières, etc. quoi.
Oui, donc c'est une manifestation Black Lives Matter, oui, ce qui ça. Fait vachement écho à ce qui se passe en Belgique et ce qui s'est passé les dernières semaines, ou tout le temps.
D'ailleurs. Voilà. Donc rendez-vous là-bas. Hein.
On va écouter Barbara avec les petits gâteaux.
À cette même époque, vivait un autre monsieur qui lui est mort de sa belle mort, c'est-à-dire comme vous et moi, et qui a écrit beaucoup de chansons, de comédies, des soirs comme ça. Enfin, ce monsieur s'appelle Vincent Scotto, et il a écrit une chanson extrêmement gourmande et toujours très intellectuelle. D'ailleurs, c'est toujours la même époque. Vous savez, ils disaient Emma, maintenant ils disent mystérieuse, avant c'était Emma, je ne sais pas où ça va aller. Et alors, car je suis la femme la moins mystérieuse qui soit, et la moins intellectuelle aussi d'ailleurs, et la chanson s'appelle Les petits gâteaux. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là là, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra d'un petit coup d'œil oblique. Vite, il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un petit air malin, il en prit deux dans sa main. Elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, les marrons et mon cœur chaud. Cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, mais les marrons sont glacés. Elle s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua: à mon âge, croyez-vous, je prends plus que du caramel mou mou. Des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il saussait en tremblotant. Dans un verre d'eau et d'orgeat, une toute petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère: mange ses croquignoles. Il répond d'un ton sec: je n'aime pas les gâteaux secs. Ah non, elle vend des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc rappeler d'un petit ruban et lui dit d'un petit air doux, ben mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux, c'est que mangez donc la mer avec.
Et on va écouter un slam de Brigitte qui s'appelle La vieille et le pangolin.
Mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris.
Alice, le pangolin, la vieille et la peur. En mai 68, j'allais sur mes 18 ans. Mai 2020, je vais bien plus loin, donc, arithmétique élémentaire. Le 15 mars 2020, tout comme le 14, le 13 et le 12, et tous les autres jours de l'année, je faisais bravement mes petites courses avec mon petit caddie, et puis je préparais mon petit repas, souvent solitaire. Mais, le 16 mars, le virus qu'on attribue à Monsieur Pangolin, qui sûrement n'en sait rien, a bouleversé tout ce petit train-train. On ferme, le papier cul devient culte, les courses se font en rang mais pas serré, masqué ou non mais au pas de charge. Et je reçois dans ma messagerie des tas de « je me propose pour faire vos courses ». Ah mais c'est super charmant. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire en attendant? C'est vrai que je suis pas vraiment une fanat des courses, non, mais qu'est-ce que je fais? Je ferme mes volets, je me mets au lit. Jusque-là, j'étais une senior avec horaire souple à qui on pouvait demander multe service et pourquoi pas. Et trois fois dormir et je deviens, attention, fragile. Il faut s'en occuper. Mais de loin, en trois jours, j'étais une personne à risque. Encore une fois, c'est peut-être tout à fait charmant, mais c'est quand même déroutant. Et c'est là qu'intervient Alice, de l'autre côté du miroir. Mais oui, je l'avais rangée avec ma vie d'avant et le spectacle que je préparais. Ces questions impertinentes sur le sens de la vie ne cadraient plus vraiment avec la gravité de la situation. Mais Alice me dit, si je ne suis plus la même qu'avant, qui donc suis-je? Et alors là, dans l'incertitude, je me suis mise à rêver aux années passées. Pour moi, me dire que oui, c'était pas un leurre, j'avais existé. Il y a quelques années, mais j'avais existé. Par exemple, mai 68, slogan. La beauté est dans la rue. Mai 2020, pour notre bien et le vôtre, restez chez vous. Prenons nos désirs pour des réalités. Les pricots pourront rouvrir dès ce lundi, youpi, sous les pavés de la plage. Été 2020. Nous vous attribuons un numéro par famille. Les haut-parleurs vous indiqueront quand vous pourrez vous approcher de l'eau. Vous avez exactement 10 minutes. Jouissons sans entrave. Lettre à l'inspecteur de quartier. Ma voisine, cette nuit, a reçu un amant. Je l'ai entendu. Prière d'intervenir. Je ne veux pas mourir. Sois jeune et tais-toi. Sois vieille et tais-toi. Ah ben ça au moins, c'est un repère, ça n'a pas changé. Ah facile qu'ils me disent, mamie boumeuse, enfant gâté, individualiste, anarchiste de droite. Face aux pangolins, tous ensemble, solidarité, aplatissons la courbe. Reste chez toi si tu le fais pas pour toi, fais le pas, respect, pour moi. Et quand tu seras malade, tu vas encombrer les urgences? Oh là là, j'ai dit moi. Restons calmes. Moi, je respecte les gestes barrières, je me lave les mains tous les quarts d'heure, des charmantes personnes m'ont confectionné des masques que je porte avec bonheur. Bon ben alors, il est où le malaise? Vous l'entendez pas? Vous l'entendez pas? Elle est muette, mais elle est bien présente. C'est la peur. La peur, elle est là. Et dès que je la soupçonne chez quelqu'un, ben, j'évite les contacts. Par respect. Cela fait des longues semaines que j'écoute religieusement des experts m'expliquer que moi aussi je suis mortel et qu'en plus, je peux être un danger pour les autres. Ben, ils font leur boulot, respect. Mais voilà, pour moi, c'est pas un scoop. J'ai enterré la plupart de mes amis, de mes amants, de mes sœurs, je suis au courant. La vie est un risque. Avec ou sans pangolin, elle le restera. Et alors là, la peur, toujours avec son sourire narquois. Mais désolée, madame la peur, pour moi mourir, c'est pour bientôt de toute façon, alors quoi? Mais ce qui m'effraie, voyez-vous, c'est plutôt de continuer à vivre, sans vraiment exister.
Mutante un jour,
mutante toujours! Oui.
L'émission en rose et noir de Radio Panique.
Vous venez d'écouter Rinrenade de Ambassade. Et je vais vous lire un extrait d'un fanzine qui est sorti il y a quelques années. C'est Mutante 4. Et il avait été réalisé à l'époque par une personne qui s'appelle actuellement Sem Nagas. Le texte, c'est « Sortir du rêve et trahir sa race ». Tous les blancs ne sont pas racistes, mais tous les blancs bénéficient du système raciste. La question raciale en France est centrale et politique, elle fédère et divise. Les politiques ont du pouvoir sur nos vies et nos corps, ceux de les plier, de les exploiter et de les exterminer. C'est une question intrinsèquement liée à la question anticapitaliste. La blanchité est une posture de pouvoir, pas une opinion, pas une question morale. C'est un pouvoir exercé sur des corps, qui sont construits comme des corps différents, étrangers, que vous le conscientisez ou pas, leurs conditions matérielles d'existence sont différentes des corps blancs. Les corps différents ne posent pas un problème en soi, c'est la différence de traitement qui est problématique. Leurs droits sont sans cesse remis en question au sein même de la nation qui prône une hiérarchie, un ordre colonial et des frontières. Même si nous le subissons, le racisme est le problème des blancs. C'est leur imaginaire, la réalité sociale et le rêve des groupes dominants. Ce sont leurs pratiques qui sont mises en avant et légitimées dans la modernité. Ils ne nous demandent pas notre avis, jamais. Le racisme nous laisse exsangues dans une position d'éternel objet politique, silencieux et statique. Dès lors, il est impossible pour les blancs de rester en dehors de ce système de pouvoir. Il est impossible pour les racisés de changer le système raciste sans les blancs. Et ce n'est pas une accusation ou une injonction faite à un groupe social, c'est une évidence matérielle et la constatation de notre interdépendance. Vous devez trahir votre race pour éradiquer le racisme. Vous devez mettre fin à votre rêve, changer radicalement vos pratiques, prendre des positions divergentes et inconfortables, remettre en question des évidences, générer le désordre, violenter votre ego. Si le mouvement queer a pour objectif de démanteler le régime de la norme, il a le devoir de lutter contre le système raciste. Tout comme les anticapitalistes ne peuvent pas évacuer d'un revers de main la question raciale. Pour passer d'un stade de révolté à un stade de révolutionnaire, il faut effectuer une révolution personnelle, un renversement brusque et douloureux qui au final se révélera salvateur. Plus que des alliés, nous avons besoin de complices. C'est un besoin urgent dans un état sécuritaire de plus en plus aliénant qui va noyer et criminaliser nos revendications.
Merci. Moi, je voulais vous partager un article que j'ai lu sur le magazine internet féministe qui s'appelle Jezebel. Et c'est un article qui a été écrit par Stassa Edwards. Puissant. C'est ainsi que CBS News a décrit une photo de la police à genoux lors d'une manifestation ce week-end. La photo montrait des policiers de différents départements du comté de Miami agenouillés lors d'une manifestation, à Coral Gables, en Floride. Les policiers, rapporte CBS, se sont agenouillés en solidarité avec les manifestants, promettant qu'ils poursuivraient le dialogue avec les organisateurs. Le geste était au mieux performatif et uniquement dans le but de produire une image qui serait reproduite et célébrée comme une vérité, rendue indiscutable par la force documentaire de la photographie. Et c'est exactement ce qu'ont fait les grands organismes de presse comme CBS, qui ont traité la photo de Gables comme l'expression d'un sentiment plus large qui se serait manifesté partout. De New York à un barrage de police devant l'hôtel de Donald Trump à Washington, en passant par Ferguson dans le Missouri et Saint-Paul dans le Minnesota, où la police est agenouillée toute seule après le refus des manifestants de se joindre à eux. Les images de policiers à genoux suggèrent qu'il y a beaucoup de bons flics investis dans le projet sentimental d'unité nationale, peut-être même de guérison, comme la rhétorique l'exige habituellement, même si les images de manifestants brutalisés par les forces de l'ordre ont proliféré. Ces photographies sont bien sûr des fictions, encadrées et recadrées pour réaffirmer certains des mythes fondamentaux de l'Amérique sur elle-même, à la fois sa croyance romancée en l'unité et son profond investissement dans l'humilité performative. Prenez la photo de Gables, décrite par la filiale CBS comme un puissant moment d'unité, qui a précédé un autre moment émouvant où des centaines de personnes prient ensemble, unies par des cœurs lourds et un désir de changement. Quelques heures plus tard, dans le centre-ville de Miami, des milliers de personnes se sont rassemblées pour une manifestation dirigée par Miami Dream Defenders, où elles ont finalement été accueillies par la police de Miami en tenue anti-émeute. La promesse de l'absolution a pu être accordée en un rapide tableau, un seul geste qui n'a inculpé personne et a absous tout le monde. Les photographies et les vidéos de la police à genoux s'étaient alors répandues sur Internet, faisant le triste travail de dissimuler la raison même des protestations nationales en cours, le meurtre de George Floyd et le racisme systémique qui définit la police américaine. La promesse de l'absolution pouvait au contraire être accordée en un, en un rapide tableau, un seul geste qui n'accusait personne et absout tout le monde. C'est pourquoi ces images sont souvent décrites comme émouvantes, une description creuse de sentiments absolument dénués de sens. Le geste de genouillement est dépouillé de son contexte, ainsi que des répercussions ressenties par ceux qui l'ont exécuté en guise de protestation. Comme la police s'agenouille par soi-disant solidarité, elle ne cherche qu'à réconforter ceux qui sont déjà mal à l'aise, en évoquant des images de divinité et de révérence tout en dissimulant toute la force mortelle du genou d'un policier. L'inverse de ces images est celui de Derek Chauvin, utilisant son genou comme une arme, pressant son poids sur le cou de Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes, soit longtemps après que Floyd ait perdu connaissance, jusqu'à ce qu'il meure sur l'asphalte fissuré d'une rue de Minneapolis. C'est Thomas Lane, J. Alexander Kung et Tu Tao qui refusent d'intervenir, agissant en solidarité avec Chauvin. Là où le meurtre de Floyd exige une action, les photographies de policiers à genoux n'exigent rien. L'écart entre les images révèle la rupture entre une certaine image de l'Amérique et sa réalité. Ce spectacle obscène d'images va probablement se poursuivre. Il y aura plus de photographies de policiers à genoux, plus d'images qui font appel au sentimental. Elles seront sans doute décrites comme émouvantes, citées comme preuve de guérison ou même des désirs politiques de l'Américain moyen. Mais ce geste est dénué de sens, et sa demande de reproduction doit être ignorée. Il y a, même dans une photographie, une signification à trouver chez ceux qui protestent contre l'institution insoutenable du maintien de l'ordre. Elle comprendra chaque détail, chaque champ, chaque panneau de carton fabriqué à la hâte, chaque larme produite par le gaz poivré et le gaz lacrymogène, chaque ecchymose causée par une balle en caoutchouc, chaque éraflure causée par le fait d'avoir été jeté au sol, chaque entaille sur un poignet retenu, chaque goutte de sang et chaque blessure, visible ou non. Ces détails, comme les fait valoir John Berger, sont porteurs de vérités plus larges sur la violence et son histoire raciale pointue, même si les fictions de l'humilité s'efforcent de les dissimuler. Le monde n'est pas intolérable tant que la possibilité de le transformer n'existe pas, mais qu'elle est niée, a écrit Berger. Reconnaissez cela et agissez en conséquence.
Ouais, en rebondissement à ça, dans les posts que j'ai vu passer, que merci pour vos lectures et l'article. Il y en avait un qui disait vous agenouillez pas, démissionnez si vous voulez montrer une quelque forme de décence. Il y avait aussi une photo comique d'un ours nageant au milieu d'un banc de saumon avec écrit waouh, cette photo hyper émouvante de l'ours qui rejoint la manifestation de saumon. Et un tweet qui disait ah, c'est fou tout ce qui se passe aux États-Unis, on dirait qu'ils sont maudits comme s'ils étaient construits sur un cimetière indien.
Vraiment.
Elle est pas mal celle-là.
Ouais. Ah oui.
Il marche plus celui-là.
Il y a un faux contact.
Ah, okay.
C'est comme ça.
D'accord. Et juste avant que j'oublie sur les belles images qu'Harry à Washington DC, la capitale législative de ce grand foutoir. Là où il y a la Maison Blanche, les activistes de Black Lives Matter ont écrit sur l'avenue qui mène à la Maison Blanche, donc des lettres qui sur le sol de l'avenue, des lettres qui doivent faire 12 mètres de hauteur, Black Lives Matter. Donc maintenant le chemin qui y mène est inscrit ici, et j'ai topé un article parce que la mairesse de Washington a du coup renommé, bon c'est pas très intéressant, mais si quand même, elle a renommé cette partie de l'avenue maintenant qui s'appelle Black Lives Matter. Bon, bref, voilà.
Ah, carrément, il y a une rue maintenant qui s'appelle Black Lives Matter.
Mais en fait, j'aimerais bien avoir plus de détails, mais...
Mais tu n'en as pas.
Mais la mairie... mais je crois que... Ouais, non, enfin, j'en ai pas. Non, mais je crois qu'en gros, mais allez regarder les images sur Internet, c'est très beau. Mais je crois que c'est une mairesse du district de Columbia qui a du coup renommé l'endroit qui a été inscrit du nom de Black Lives Matter.
Ouais. Ben, moi, je voulais juste rebondir sur les deux lectures, articles et tout. Toutes les réactions qu'il y a en ce moment vers les violences policières sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas mal de personnes racisées et ou noires. Et en fait, je félicite toutes ces personnes et leur patience pour expliquer en quoi on n'attaque pas tous les flics, not all cops, tout ça, et que ça me saoule en fait. Enfin voilà, j'avais juste un petit coup de gueule de j'en ai marre en fait de voir les personnes noires devoir s'expliquer encore et encore, les personnes noires sortir des articles pour expliquer aux comment être un bon allié ou comment être un bon complice. Il y a beaucoup de choses qui fusent et qui se publient. Et donc voilà, je voudrais juste leur rendre hommage, les remercier et dire que tout ça c'est du travail, de la patience et que des fois on l'a pas forcément. Voilà.
D'ailleurs, on va partager sur la page Facebook de Chronique Mutante un pad ressources aux personnes blanches.
Tout à fait.
Pour déconstruire le racisme. Et il y en a plein qui ont été créés, mais du coup, celui-là, il est contextuel Belgique. Voilà.
Mais oui, voilà, c'est quand même important de rappeler tout ça, en fait. J'ai lu plein de trucs sur des personnes qui viennent commenter des publications sur comment on attaque les flics, enfin voilà, c'est fatigant.
On met un morceau de musique. On va écouter Dogface Terrence avec Love is the Heart of Everything.
Thank you.
Et on est de retour. Oui, nous sommes de retour dans Chronique Mutante. Et on voulait vous parler de la fin de cette superbe série qui s'est achevée du coup la semaine dernière.
Elle s'est vraiment achevée ou c'est juste la troisième saison?
Pas de spoiler, faites comme moi, allez faire pipi.
Et oui, mais ils savent pas de quoi. Et qui s'appelle Killing Eve.
Et on en avait, enfin tu en avais déjà parlé, Leïla, il y a quelques temps.
Oui, parce qu'elle m'avait.
Pour les auditrices les plus fidèles.
Il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, bah oui, parce que c'est une série qui a 3 ans. Et qui est vraiment bien faite. Donc elle a été réalisée par Phoebe Waller-Bridge. Je ne sais pas si vous avez vu Fleabag, qui est une série vraiment très très bien. Et elle avait aussi fait Crash, une série qui se passe dans un squat d'ailleurs. Et donc c'est une série qui se passe un petit peu partout dans le monde, mais principalement à Londres, où Eve, une agent du MI6, l'agence d'espionnage anglaise, joue.
L'espionnage, c'est comme la CIA, quoi.
Ouais, voilà.
Espionnage étranger.
Oui, des gros espions, joue au chat et à la souris avec une tueuse à gages qui s'appelle Villanelle. Et en fait, de ce petit jeu de chat et la souris vient naître des sentiments, de la fascination pour le meurtre, ou une sorte de fascination qu'elles entretiennent toutes les deux, parce que Eve a une vie un peu plan-plan, un peu ennuyeuse, et Villanelle est un peu perdue dans sa vie, et en fait, elles se plaisent pas mal toutes les deux, quoi, même si...
Elles sont obsédées l'une par l'autre.
Elles sont obsédées.
D'obsession.
Oui, elles sont obsédées l'une par l'autre.
Et donc en fait, elles partent d'une routine qu'elles ont en fait. Yves dans son métier de flic et Villanelle dans son métier de tueuse, quoi.
Et le ton est assez comique, même si c'est une série un peu polar. Donc on suit des enquêtes pour meurtre, mais il y a quand même quelque chose de... Ce qui m'a un peu marqué, c'est la familiarité, où il est très possible que deux personnages discutent ou mangent ensemble, et puis après essayent de s'entretuer, quoi.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la série glisse de plus en plus, attention spoil, vers la comédie...
romantique.
La comédie, en tout cas, on a l'air de... Moi, en tout cas, au fil des épisodes, j'en avais plus rien à foutre que quelqu'un meure ou quoi, parce que c'était rigolo.
Ouais, c'est pas ça qui nous intéresse.
C'est pas ça qui nous intéresse, et puis les meurtres sont souvent des moments drôles, quoi. De quand est-ce que Villanelle va péter un câble parce qu'on lui a marché sur le pied et qu'elle va décider de trucider.
Oh, c'est jamais pour quelque chose comme ça, il y a toujours une bonne raison.
Oui. PC, tu as...
Elle est payée pour faire ça, c'est son job.
Oui, mais c'est aussi une vraie psychopathe qui a aussi des fois un petit tempérament.
Ouais, ça la rend très sexy. Oui. Ce moment tempérament, très sexy. Elle est très drôle. Et moi, je préfère l'appeler Oksana que Villanelle.
Ah oui, c'est son vrai nom.
Oui, c'est plus sexy.
Oui, tout à fait.
Et on en rencontre une flopée de psychopathes dans cette série. C'est assez...
Ça parle pas mal de psychopathie parce que la policière est aussi profiler. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaye de se faire passer pour Villanelle pour tuer quelqu'un, et ben elle le remarque tout de suite parce qu'elle connaît sa signature et elle reconnaît les meurtres. Enfin, il y a un truc sexy dans le meurtre, quoi.
Et puis, il y a aussi un truc de psychopathie intergénérationnelle, hein, que ce soit des enfants...
Oui, c'est vrai.
Oksana, qui est plutôt jeune adulte... que ce soit comment elle s'appelle déjà
la fille de Constantine, enfin d'un des personnages qui est aussi psychopathe.
Oui, c'est ça, mais il y a aussi une ancienne une tueuse à gages à la retraite, j'ai oublié son nom.
Dasha.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais je trouve qu'on utilise beaucoup le mot psychopathe.
Ouais.
Du coup, c'est psychophobe, ça me plaît pas trop.
Ouais.
Je pense qu'on
vrai.
Pourrait utiliser d'autres mots. Et pour le personnage d'Oksana, donc Villanelle, elle a été enlevée dans sa famille. Enfin, elle a été vendue par sa famille à un orphelinat. Et en fait, on lui a lavé le cerveau en fait depuis qu'elle est toute petite. Mmh. Du coup, elle est comme ça parce qu'on l'a formée à ça depuis toute petite. Elle a rien connu d'autre à sa vie. Et je vais pas vous spoiler, mais sa rencontre avec Eve lui ouvre. La cervelle, voilà.
Tu défends bien la sexy ouin-ouin.
Ouais, j'aime vraiment beaucoup.
C'est pas sa faute, ok? Elle a été enlevée quand elle était petite.
Non, mais du coup, c'est pour remettre dans le cadre. Elle est pas, voilà, genre, naturellement psychopathe, je sais pas quoi. Enfin, voilà, ça me plaît pas, je préférais dire autre chose. C'est pas
et
ça
puis,
le personnage.
Moi, je trouve que ça a l'air bien, cet anti-agisme du ouin-ouin. S'il y a du... Comment on dit pas... Enfin, je cherche un terme que je ne trouve pas, donc je vais dire ouin-ouin. Mais du coup, des ouin-ouin de tout âge, c'est bien?
Oui.
Mais d'ailleurs, sur la psychopathie, ou s'il faut trouver un autre mot, je sais pas, mais la série est assez intéressante parce que il y a des moments où il parle de cette définition du manque d'empathie ou des choses comme ça, et ils humanisent aussi vachement son personnage. Donc même s'il l'appelle par ce mot-là, parce qu'elle rentre dans le DCM de psychiatrie et de la définition, elle est hyper touchante, où elle a aussi ce truc de s'ennuyer beaucoup dans sa vie.
Elle aime bien s'amuser.
Et de souffrir de son ennui.
Oui, genre à un moment, elle doit tuer une dame qui garde un bébé dans la dernière saison. J'adore ce moment. Et du coup, en fait, après, tu la vois avec sa Dasha en train de boire un verre. Elle a ramené le bébé avec parce que juste, ça l'a fait marrer. Et Dasha, ça l'énerve. Elle prend le bébé, elle fout à la poubelle. Et voilà, c'est un humour noir que je trouve génial dans cette série.
Et puis, c'est plein d'images trash, mais quand tu rigoles vraiment quand tu le regardes.
Ah, complètement. Oui. Ouais, tu prends ton pied.
Oui, j'ai quelques bons moments de poilade quand même.
Ouais, la fête foraine aussi dans la dernière saison. J'ai adoré la fête foraine en Russie, là. Ouais, elle est super excitée, elle est vraiment géniale. Bref. Il est 50 à, en fait, j'ai oublié. Bon, on va encore écouter juste un petit discours de Saïd au moment de la manif qui a eu lieu mercredi, qu'Héloïse a enregistré. Et après, on se quittera avec une chanson qui s'appelle Politicians in My Eyes de Def et qui a été proposée dans le chat par ACAP 13, s'il vous plaît.
Marseille représente.
Marseille représente, c'est parti. Oui, on est encore à l'antenne, tu peux me parler directement, mais pas dans ton casque, ça ne marche pas.
Et on peut dire que tous les slogans qu'on a entendus pendant l'émission ont été enregistrés pendant le rassemblement des sans-papiers qui a eu lieu mercredi.
Voilà, c'était une sorte de manifestation pendant l'émission.
Et on peut dire qu'on se retrouve demain à 15h à la place Poulard.
Tout à fait, demain à 15h, place Poulard. Bisous.
Chers camarades, on vous remercie tous les camarades et nos soutiens qui sont venus de se tenir aujourd'hui. On remercie tous les sans-papiers qui sont venus pour manifester aujourd'hui. Bien sûr, chers camarades, comme vous le savez, cette action organisée par quelques groupes, trois sans-papiers, un qui sont des micros, collectifs des travailleurs qui encadrent cette action. Tout simplement, il y avait une rencontre à l'intérieur et c'était basé pour nous sur trois points. Le premier point, c'est d'avoir la position de les maires sur la question de la régularisation. Le deuxième point, c'est sur la question du Conseil national de sécurité qui deviendra aujourd'hui présidé par la première ministre qui est un de la famille de ce parti. Et la troisième question, c'est qu'on a demandé un rendez-vous avec la première ministre, tout simplement pour revendiquer, pour discuter sur toutes les revendications des sans-papiers d'aujourd'hui, pour avoir une régularisation. Bien sûr, les amis, comme vous le savez, cette action est venue dans une série d'actions depuis le Covid-19. On s'est rencontrés devant une situation que le gouvernement interdit, ça c'est un exemple, interdit de faire payer, d'acheter les tickets dans les bus par la monnaie. Et ça nous devenait vraiment fou parce que nous, on n'a pas une carte bancaire. Tout simplement pour avoir une carte bancaire, et là, on se trouve dans cette situation. On ne peut pas même acheter un ticket de train. Comment on va payer nos loyers? Comment on va payer l'électricité? Je vous dis que cet conseil aujourd'hui il est vraiment trop loin de ce qui se passe dans la réalité. Il est trop loin de ce qui se passe dans la réalité. Et bien sûr, la réalité, c'est catastrophique pour les sans-papiers. Et c'est pour cela on fait un appel à toutes les organisations, à tous les militants, à tous les sans-papiers, à tous les autres groupes des sans-papiers qui nous rejoignent dans nos actions pour avoir un rapport de force du terrain mais pour construire un rapport de force commun, pour y arriver à une... La seule solution, c'est la régularisation. Et merci à vous.
Prohibited est une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.